session disputée de philosophie politique à Saint-Jodard le 20 février 1993.
Pour décrire un peu l'ordre du travail, frère François va vous rappeler les données, surtout celles d'Aristote, qui est un peu le fruit de la topique qu'on a faite, et puis je me chargerai de souligner les difficultés et les questions qu'au fond le philosophe peut aujourd'hui poser à Aristote, pour souligner au fond les limites de l'analyse d'Aristote, et ce qui permettra ensuite de réfléchir ensemble sur le bien commun et au Père de nous donner une analyse qui, voilà, qui aille plus loin que ce que nous donne Aristote. Et puis qui soit surtout, qui éclaire ce que nous avons à vivre du côté de notre expérience politique.
Vous voyez, ce qui nous a frappé à travers ces séances finalement de topiques qu'on a faites, c'est que c'est le rôle vraiment tout à fait privilégié d'Aristote. On peut dire que le bien commun, le bien en politique, le bien de la communauté, pas seulement le bien de la communauté, naît et est analysé, théorisé avec lui. Et ceci face à Platon. C'est la première fois, et de façon assez unique, qu'on voit un bien affirmé comme fin de l'activité politique et de la science politique, puisque c'est ce qu'il dit au début de l'éthique. Alors, le terme ressurgira avec saint Thomas au Moyen-Âge, tout à fait dans le même sens, mais on voit bien que saint Thomas s'approprie la philosophie politique d'Aristote. Je ne crois pas qu'il cherche à l'approfondir ou en retrouver les fondements. Il la prend comme telle. Je crois que ce n'est pas son but que de faire œuvre de philosophie politique. Alors, en dehors de ces deux sommets, parce que vraiment ils apparaissent comme tels, même si Aristote est beaucoup plus fort en termes philosophiques sans doute, on constate que le bien commun, le bien de la communauté, ou bien est absent de la pensée politique, de la pensée de la philosophie politique, ou alors il est présent, mais dans un sens qui est sans doute dégradé par rapport à ce qu'Aristote a apporté, a suggéré. Ça on le verra. Je reviendrai un petit peu dessus. Alors, pour commencer, quel est rapidement... Il ne s'agit pas de tout reprendre. Quel est l'apport spécifique d'Aristote ? C'est donc de reconnaître une fin propre à l'activité politique. Et cette fin, on ne peut pas la voir dissociée de ce qui fonde la communauté elle-même, c'est-à-dire une coopération entre ces différents éléments dans une œuvre commune. C'est-à-dire que la coopération, les différents membres de la communauté, l'œuvre, le bien commun sont indissociables. Alors au passage, on voit que c'est sûrement pour Aristote une façon d'établir des rapports entre les parties et le tout. Hein. Les parties s'unissent dans une coopération réalisant une œuvre en vue du bien commun. Hein. Alors ce qui est très frappant, c'est que c'est vraiment là qu'on voit combien c'est le contraire, combien c'est différent, opposé pour une bonne part à ce que dit Platon. Chez Platon, il y avait une confusion entre, on l'a dit, une confusion entre éthique et politique. Bon, c'est le bien en soi qui est contemplé par le philosophe roi, qui va se manifester, se diffuser dans la communauté. Et le but, en fait, ultime, cherché dans l'ordre politique, c'est la concorde dans la cité, l'homonoïa. Et le moyen principal pour atteindre cette concorde, c'est la justice. Alors, s'il y a un bien, si on peut parler d'un bien commun, le terme n'apparaît pas comme tel chez Platon, s'il existe, c'est en fait un état de la cité, cet état de concorde, qui n'est d'ailleurs pas du tout précisé. Alors je crois que c'est capital parce que ça reviendra absolument tout le temps dans la pensée, dans la philosophie politique. Cette espèce de, finalement, ou bien on reconnaît ou bien un statut objectif, en quelque sorte, ou bien à ce moment-là, on va le réduire à un certain état de la communauté et quelquefois à des dimensions strictement matérielles. Après tout, on l'avait dit, cette table fait partie du bien commun. Et il y a pour toute communauté des aspects matériels qui peuvent être qualifiés de bien commun. Mais il faut voir que ça n'a plus du tout le sens que Aristote voulait lui donner. Donc, on a le sentiment, en tout cas, à travers ce regard historique, qu'il y a vraiment deux axes. Ou bien, je dirais, on demeure un peu dans l'immanence de la communauté, ou bien on cherche, on recherche, oui, ou on pressent une part, alors il faut se méfier du terme, mais j'allais dire de transcendance, d'extériorité par rapport à la communauté. Donc un aspect plus objectif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'ailleurs que chez un homme comme Maritain, on voit bien qu'il est parti dans son analyse du bien commun de cette dimension, je dirais, immanente, et qu'il a cherché sans cesse à s'élever à quelque chose d'extérieur, sans y parvenir, enfin, en tout cas d'une façon très, très convaincante. Alors, plus précisément, je crois, on peut relever deux apports, en fait, deux précisions d'Aristote sur le bien commun. Une chose qui me paraît essentielle, c'est qu'il le dit, il l'écrit, le bien commun, c'est le bien de tous en commun et de chacun en particulier. Alors ça, je crois que c'est capital parce que on voit qu'il n'y a pas du tout d'opposition, comme il y en aura une opposition tout à fait dialectique, entre bien de la communauté et bien personnel. Une opposition à laquelle on vit en particulier depuis deux siècles, mais qui était déjà en quelque sorte présente en germe chez Platon. Le bien commun, ce n'est pas le bien de la communauté, c'est le bien de tous en commun et de chacun en particulier. Donc, je crois qu'Aristote nous indique, nous suggère en tout cas, que le bien de la communauté, ce qu'il n'emploie pas d'ailleurs lui-même le terme de bien commun, enfin le bien en politique, fait partie du bien de chacun. C'est en quelque sorte un élément, une composante du bien personnel. Alors, en plus de ça, je crois que la seconde précision qu'Aristote nous donne, c'est qu'il cherche à préciser, donc à décrire ce bien commun. Alors, je l'avais dit, si on cherche à le voir un petit peu du côté des membres de la communauté, c'est ce qu'il appelle le bien-vivre, hein, le zen. Alors, on pourrait disserter longtemps là-dessus, on l'a un petit peu fait, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que dans ce bien-vivre pour Aristote, là encore, ce n'est pas seulement un état de la communauté, ce n'est pas seulement la concorde, ce n'est pas seulement la justice, ce n'est pas seulement la sauvegarde de l'intérêt général, même si d'ailleurs il dira que le bien commun c'est tout ça, il le dit à chaque fois. En même temps, il y a une dimension de... D'ailleurs, il parle beaucoup plus souvent de filia, hein. Donc, on voit qu'il y a un aspect personnel dans la communauté politique et dans la vision qu'Aristote a du bien. Et il y a une part de grandeur, de dépassement de la personne dans le bien-vivre. Hein. Et puis, bon, il le dit aussi sans arrêt, il le dit aussi dans l'éthique, bon, le bien vu, je dirais, sous l'angle de la communauté, bien que je viens de le dire, il ne faille pas les opposer, bon, c'est l'autarkeia, hein, l'autarcie. Alors, les deux se tiennent. Hein. Le bien vivre dans la communauté va appeler l'autarcie, en même temps celle-ci en est la condition. Donc on a le sentiment d'une construction permanente, hein, des deux, l'un par l'autre en quelque sorte. Alors je ne développe pas plus, je voudrais simplement à ce stade relever quelques questions simplement que nous suggère Aristote au vu de ce qu'on a dit. Alors il y a une première question qui vient immédiatement à l'esprit par rapport justement à ce que je viens de rappeler. On parle de bien vivre, d'autarkeia. Est-ce que le bien commun, le bien de la communauté, le bien en politique, est-ce que c'est ce bien vivre, ou bien ce bien vivre, quelles que soient les expressions qu'on emploie, finalement, ne sont-ils qu'une modalité, que des expressions, que des manifestations du bien commun? J'avais peut-être un peu osé, mais enfin suggéré cette espèce d'analogie. Est-ce qu'on peut regarder le bien-vivre, le zen, comme étant au bien commun ce qu'est, dans un autre ordre de l'être, entelegeia à energeia. On voit bien qu'il y a ces deux dimensions. On a un peu ce sentiment chez Aristote. Alors, du même coup, ça nous force à nous poser la question. Il faudrait préciser plus nettement quel rapport entre ce bien de la communauté et la justice, et donc d'ailleurs les lois. Quel lien avec l'intérêt général? Bon. Je crois que c'est la réponse à la question précédente qui va apporter les réponses à celle-ci. Je crois que à nouveau, c'est la réponse à, c'est toujours la même question en fait qui est posée sous un autre angle. C'est important parce que c'est bien là qu'on va voir s'il y a différence ou pas entre la position d'Aristote et celle de Platon. Si finalement le bien vivre se réduit, le bien commun se, je dirais, s'analyse comme étant le bien vivre ou la concorde, finalement, qu'est-ce qui va véritablement le différencier de Platon? Je crois que ce n'est pas facile de répondre à cette question, si on réduit en quelque sorte le bien commun à soi. Alors, il y a une autre question qui est engagée par, le, par ce que nous suggère Aristote. Et alors, il y a des questions qui ne traitent pas de façon assez curieuse, et rien que le fait qu'il n'en parle pas mériterait qu'on s'interroge dessus. Alors, quel est le lien entre le bien commun et le bien personnel? Bon, alors, je l'ai dit tout à l'heure, il semble que l'on puisse regarder ce bien en politique comme une composante du bien personnel, mais mérite quand même qu'on s'interroge sur le rapport entre ce bien atteint en politique et puis le bien qui est atteint dans l'amour d'amitié et surtout d'ailleurs dans la contemplation. S'il y a disposition des uns par rapport aux autres, dans quel sens, je dirais, cela va-t-il jouer? Quelle interaction entre ces différents biens? Puis alors, pour terminer, en restant un peu toujours centré sur Aristote et finalement en l'interrogeant, on peut se demander si on peut être peut-être que surpris toujours en lisant la politique de voir combien il est bref sur ces aspects-là, est-ce que finalement ce qu'il dit au début de l'éthique à Nicomaque, dans les premiers chapitres du livre 1, valent aussi pour la politique? Et on est tenté à bien des égards de répondre oui, surtout lorsqu'il dit que le bien atteint par la science politique est le bien humain. Donc ça, je crois que ça mérite qu'on s'y interroge, et à ce moment-là, se poser la question par rapport à sa philosophie, en quel sens peut-on parler d'une induction? Le bien commun, le bien en politique, est-il un principe atteint par induction, et comment caractériser cette induction, induction pratique, comme vous l'avez dit, mais comment peut-on essayer de préciser à la fois la méthode, l'induction, et puis le principe lui-même? Voilà, très, je dirais, de façon terre à terre, en restant très lié à Aristote, quelques question première qu'on ne peut pas, je crois, ne pas se poser après l'avoir étudié. À nouveau, j'insiste, ce qui est très significatif, c'est qu'il est le seul à aller déjà aussi loin dans cette analyse. Il n'y a pas d'équivalent dans toute la suite de la pensée politique. Ma connaissance.
Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de poser peut-être de manière un peu agressive et critique à Aristote et à sa pensée un certain nombre de questions. D'abord en partant non pas de l'expérience d'Aristote mais de la nôtre, en se demandant d'abord si au fond notre expérience de la politique ou de la communauté n'est pas tellement différente de celle d'Aristote qu'elle ne permette pas de reprendre son approche philosophique. Pour prendre deux extrêmes, notre expérience à nous de la communauté politique n'est absolument pas celle de la cité grecque, elle est aux deux extrêmes celle de l'entreprise, dont on s'aperçoit que c'est un lieu de travail aujourd'hui essentiel pour l'homme, dans lequel il n'est pas facile de cerner ce qu'est le bien commun. Est-ce que le bien commun, pour prendre encore une fois une expérience très concrète, de l'entreprise, est-ce que c'est le produit qui, précisément, que crée ou que fabrique cette entreprise? Est-ce que c'est l'ensemble des personnes qui s'y trouvent? Est-ce que c'est l'organisation de la communauté? Est-ce que c'est ce qu'on appelle les valeurs de l'entreprise? Est-ce que c'est la réussite de l'entreprise? Est-ce que c'est tout ça et dans quel ordre? L'autre extrême, c'est l'expérience que nous avons ou que nous n'avons pas de la nation. Au fond, est-ce que nous avons une expérience d'une communauté politique comme telle? Et qu'est-ce que c'est que cette communauté? Est-ce qu'au fond, une nation comme la nation française est une réalité qui est encore humaine ou bien est-ce que c'est une réalité idéale? Et qu'est-ce qui fait l'unité d'une communauté comme la nation française? Ensuite, c'est clair que l'expérience quotidienne du citoyen français comme de celui qui travaille dans une entreprise oblige à se poser des questions qu'Aristote ne précise pas. Quel est le lien entre le bien commun et la culture? En quoi est-ce que la culture fait partie du bien commun? Est-ce que la culture sert à quelque chose du bien commun? Et au fond, est-ce que la culture n'est pas le bien commun? Et puis, de manière plus fondamentale, est-ce que ce qui constitue fondamentalement le bien commun, est-ce que ça ne serait pas le travail? Autrement dit, est-ce que le bien commun ne serait pas le travail plus la culture? Aristote n'a l'air de parler ni de l'un ni de l'autre. Il ne parle que peu du travail, si ce n'est des liens entre le maître et l'esclave. Or aujourd'hui, l'organisation d'une nation comme la nation française, elle est en grande partie, si ce n'est apparemment essentiellement, déterminée par l'organisation du travail. et pas tellement par les rapports hiérarchiques ou qualitatifs entre les citoyens, comme a l'air de le prôner Aristote. Ensuite, quel est le lien entre ce que serait le bien commun et l'éthique? Est-ce qu'au nom du bien commun, on peut imposer un comportement personnel aux individus? Est-ce que l'organisation d'entreprise peut imposer aux individus, par exemple, à travailler le dimanche, à réduire leur présence dans leur famille? Est-ce que de la même manière, les exigences nationales, qu'elles soient celles de la guerre, qu'elles soient celles précisément d'une mobilisation autour d'un problème ou d'une crise économique, est-ce qu'elle aussi, elle peut, jusqu'où peut-elle atteindre l'éthique personnelle et en quoi peut-elle prétendre intervenir dans la vie familiale ou dans la vie personnelle? Donc là, on est face à des expériences qu'Aristote ne semble pas pouvoir soupçonner et qui posent peut-être de manière tout autre ou différente le problème du bien commun. Ensuite, de manière un peu plus critique, on peut se demander est-ce que le bien commun a vraiment un lien avec l'éthique? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de concevoir le bien commun comme une œuvre, comme une organisation du travail, de répartition des biens, nécessitant évidemment un minimum de consensus, au moins, pour parler à la manière de certains philosophes contemporains, un discours commun, un dialogue entre les individus qui constituent la communauté? Mais au fond, en quoi est-ce qu'on peut prétendre faire intervenir une éthique, et une éthique qui serait normative ou universelle, dans l'organisation d'une communauté? Est-ce que c'est nécessaire, au fond, de mettre de l'éthique dans le bien commun? Est-ce qu'il ne suffit pas? Et est-ce qu'au fond, l'éthique, ce n'est pas d'abord un vernis aujourd'hui? Est-ce que le risque de l'éthique n'est pas précisément de laisser croire que le bien commun a... Est-ce qu'il n'y a pas un discours éthique qui, en fait, est uniquement de surface? Est-ce qu'aujourd'hui, le bien commun n'est pas essentiellement déterminé par l'économie et l'organisation politique? Au fond, on pourrait plus dire que le bien commun moderne, ça serait plutôt une organisation ou un jeu. Ça serait plutôt sur le modèle du jeu que sur le modèle du bien. J'irais de faire jouer les individus et les groupes et les moyens matériels de manière correcte. De faire circuler les choses de manière que chacun puisse en profiter. Là, on rejoint... Au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas, réactualiser la vision de l'Eudzen d'Aristote en lui donnant des prétentions un peu moins spirituelles et en se contentant de considérer que le bien-vivre, c'est le vivre agréable et que l'essentiel du bien commun, c'est de permettre à chacun d'avoir le maximum de loisirs et de plaisirs et de déterminer sa vie comme il entend le faire. Donc au fond, on le reverra, peut-être que c'est dangereux de prétendre donner au bien commun... une importance morale excessive, et peut-être que le bien commun n'est précisément pas d'abord un bien, il est une organisation immanente d'un groupe de vivants qui s'appelle les hommes. La deuxième question, c'est que notre sensibilité est beaucoup plus affinée que celle d'Aristote sur le problème du lien entre le bien personnel et le bien commun. Et c'est vrai que, même chose, l'expérience que nous avons comme citoyens nous oblige à nous demander, au fond, quel est le lien entre nous et la communauté nationale? Apparemment, aucun, si ce n'est celui de voter ou de faire semblant de voter. Et on ne voit pas très bien en quoi la contribution du citoyen, telle que nous la vivons, a un quelconque lien, vous voyez, avec ce que nous lisons au réfectoire sur la démocratie athénienne. Au fond, est-ce que la participation du citoyen à la politique n'est pas une pure fiction? Autrement dit, est-ce qu'il est encore possible de penser politiquement d'une manière qui soit, vous voyez, cohérente et philosophique dans une communauté politique comme la nôtre? Ensuite, est-ce que le bien commun ou cette organisation communautaire n'est-elle pas d'abord de la responsabilité de ceux qui dirigent l'État et la nation? Et en quoi est-ce qu'il nous concerne, si vous voulez? Est-ce qu'au fond, le bien commun n'est pas quelque chose que le citoyen français a plus à subir qu'à constituer? C'est une question d'organisation financière, d'organisation économique, d'organisation sociale. Ça relève d'un gouvernement auquel on essaie de comprendre quelque chose, mais on ne voit pas très très bien le fait que ce bien commun est au fond une prise directe, vous voyez, avec la vie commune, la vie personnelle, si ce n'est en lui imposant, j'allais dire, son carcan. Au fond, quelle conscience le citoyen a aujourd'hui du bien commun ? Et est-ce que cette conscience n'est pas d'abord une illusion et une utopie ? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de s'imaginer qu'on peut participer au bien commun et avoir le courage de la lucidité à la manière de Machiavel, de laisser ça à ceux qui en sont capables et d'arrêter de rêver de participer au bien commun ? Machiavel a là-dessus un regard assez froid, qui est de dire au fond, il y a ceux qui ne veulent pas que le pouvoir les écrase, et il y a ceux qui veulent conserver le pouvoir. Le tout est de trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire que le peuple, qui ne veut pas que le pouvoir l'opprime, ne doit avoir comme seul souci de ne pas se laisser opprimer par le pouvoir, mais c'est tout. Il ne faut pas s'imaginer chercher un quelconque bien communautaire, si ce n'est celui de ne pas se laisser écraser, donc c'est négatif. Et ceux qui ont le pouvoir savent qu'il vaut mieux le conserver parce qu'ils sont à peu près les seuls compétents à pouvoir le faire. Le tout, c'est de ne pas écraser ceux qui, présentement, ne veulent pas se faire écraser. Donc, au fond, peut-être vaut-il mieux ranger au placard, vous voyez, l'illusion du bien commun, et parler simplement d'un équilibre de force, d'une dialectique de la violence et de la justice. Au fond, on doit se demander quel est le lieu, s'il y en a un, où nous aurions une expérience du bien commun. Et est-ce que les expériences que nous en avons ne sont pas, encore une fois, uniquement artistiques, de coopération à une entreprise, économique et médiatique, si vous voulez. On gère un certain nombre d'images. La culture, c'est ça, c'est un ensemble d'images que la société veut bien se faire d'elle-même. Et de la même manière qu'on gère les biens matériels, il faut gérer une certaine image. L'éthique fait partie de ces images. Elles ont leur rôle. Vous voyez, je dirais, elles permettent de meubler l'imaginaire du citoyen d'une manière qui l'empêche sans doute de faire certaines bêtises ou qui l'incite à en faire certaines. Mais au fond, l'essentiel du travail de la philosophie politique, c'est de gérer les images de la communauté, d'éviter qu'elles provoquent des troubles et en même temps de les façonner de manière telle qu'elles suscitent une certaine participation active du citoyen à son activité. Donc il s'agit, si vous voulez, j'allais dire, de manipuler doucement les foules et les masses de manière telle que la communauté continue d'exister et d'avoir la place économique, financière et politique la plus dominante qui soit dans le monde dans lequel on est. Ou si vous voulez, il s'agit de se battre intelligemment sans écraser les autres, parce qu'il faut bien pouvoir les utiliser, que ce soit à l'intérieur de la communauté politique ou que ce soit au niveau international. Donc il y a des règles du jeu, parce qu'on sait que si on tue le voisin, vous voyez, il risque de se révolter, donc ça risque de créer des conflits extrêmes. Mais encore une fois, le problème, il est de gérer les conflits. Et l'essentiel de la lucidité politique consiste à gérer intelligemment les conflits et de ne pas rêver que l'homme, un jour, vous voyez, soit communautairement de bonne volonté. Que quelques individus idéalistes du style monastique ou religieux et rêvent d'une communauté mue par la bonne volonté, c'est une chose, mais ça fait partie, je pense à certains, encore une fois, politiciens contemporains, que d'être froidement lucide sur le fait qu'une communauté est toujours d'abord un groupe violent et agressif, ou passif et inactif. Et qu'il ne faut pas s'imaginer qu'un groupe d'humains soit capable, j'allais dire, d'une qualité d'activité semblable à celle de la personne. Alors évidemment, il ne faut pas le dire ouvertement, mais c'est quand même ça le fond. Ça pose évidemment le problème du nombre. Vous voyez, est-ce qu'au fond, l'internationalisation des dépendances et des communications n'oblige pas, je vous dis, à laisser définitivement le mythe du bien commun comme quelque chose qui était vivable dans sur une petite échelle qui était la cité athénienne ou la cité grecque. D'ailleurs, Jacqueline de Romilly le soulignait elle-même comme quelque chose qui était très beau dans l'idée, mais pas toujours réalisé dans les faits. Donc il faut voir là, j'allais dire, qu'il y a un grand cynisme politique face auquel il n'est pas facile de répondre philosophiquement, mais qui oblige sans doute à être plus intelligent. Ensuite, il y a un troisième problème auquel Aristote a été différemment sensible de nous. C'est les ambiguïtés et le gigantesque risque des liens entre la religion et la politique. Est-ce qu'au fond, le mythe du bien commun ne vient pas de la religion. Est-ce que ça n'est pas le... On parlait tout à l'heure d'un bien commun transcendant et extérieur. Est-ce que le grand danger de la religion ou du lien entre la politique et la religion n'est pas précisément de se servir du discours religieux qui fait référence à quelque chose d'extérieur comme moyen de manipuler, pour le coup, de la manière la plus profonde qui soit, l'ensemble d'une communauté humaine? Et est-ce que la religion, ou si vous voulez considérer que le bien commun est parfaitement transcendant à la communauté, n'est pas le moyen de justifier n'importe quoi? Est-ce que les totalitarismes athées n'ont pas comme modèle précisément un modèle analogue à l'utilisation, vous voyez, j'allais dire, du thème de Dieu ou de la vengeance de Dieu ou de la punition divine, j'allais dire réinterprété? Vous voyez, donc j'allais dire les dangers d'une utilisation de la religion dans la politique. Ça, c'est pour répondre de manière assez agressive à Platon. Vous voyez, le philosophe roi, en étant cynique, on en a connu des contemporains qui se voulaient philosophes, qui se sont plutôt appelés des dictateurs ou des tyrans, mais qui précisément prétendaient imposer à la communauté leur vision contemplative, ou soi-disant contemplative. Donc au fond, est-ce que insérer la contemplation au niveau politique n'est pas, vous voyez, ou rendre un contemplatif dépositaire du bien commun, ou un soi-disant contemplatif dépositaire du bien commun, n'est pas la porte ouverte, vous voyez, à l'arbitraire politique le plus grave, qui est précisément de justifier philosophiquement, vous voyez, j'allais dire, une organisation politique qui soit en fait complètement anti-humaine. Autrement dit, est-ce que ça n'est pas trop dangereux de rendre la politique dépendante d'une vision religieuse, et j'allais même dire d'une vision philosophique? Autrement dit, est-ce que la manière dont les idéologies athées ont trouvé une manifestation concrète dans le nazisme ou le stalinisme, dans les dictatures de droite et de gauche, n'oblige pas à renoncer complètement à toute prétention, vous voyez, à faire précisément une philosophie politique, c'est-à-dire à concevoir un idéal qu'on essayerait d'appliquer dans le concret? Donc prétendre à une vérité politique, est-ce que c'est pas extrêmement dangereux? Parce qu'au nom de cette vérité, on finit par imposer un comportement concret aux individus, et qu'il faut pouvoir être sûr qu'on atteint la vérité. Et en politique, j'allais dire, c'est toujours celui qui applique par autorité l'organisation politique aux autres qui prétend l'avoir. C'est ceux qui la subissent qui ne sont pas toujours d'accord. Donc le risque, c'est de tout justifier. Vous voyez, j'allais dire, le danger de l'usage de la vérité, d'une vérité qui se voudrait absolue, qui se voudrait intemporelle ou qui se voudrait universelle, comme justification d'un comportement politique. Tu veux s'appuyer sur des valeurs éternelles? Est-ce que c'est pas le bon moyen de justifier la domination politique qu'on a envie d'établir? Et quel lien peut-il y avoir entre la religion? Est-ce qu'au fond, l'attitude, alors pour parler pas de la religion, mais l'attitude religieuse qui est au fond, semble-t-il, la dimension la plus personnelle qui soit, la recherche la plus personnelle et la plus intérieure, et donc la moins visible qui soit, en quoi peut-elle prétendre se mélanger à quelque chose d'aussi extérieur que la politique? Autrement dit, est-ce que la religion n'a pas à être complètement supprimée et bannie, j'allais dire, de l'humanité, pour être remplacée par une recherche spirituelle personnelle? Est-ce que prétendre institutionnaliser une recherche religieuse, évidemment l'Église est au premier rang, j'allais dire, des accusés, n'est pas extrêmement dangereux? Est-ce que l'ambition de la religion comme telle, c'est-à-dire d'un groupe qui a des prétentions politiques, c'est-à-dire qui a des prétentions communautaires, avec une motivation de sagesse ou soi-disant de sagesse, est-ce que ça n'est pas toujours voué à l'échec ou à la corruption? Ou si vous voulez, est-ce que la chose la plus dangereuse, ça n'est pas la religion? Et au fond, comment, si, est-ce que précisément la dimension communautaire ou une espèce de collectivisation de la recherche religieuse n'a pas à être bannie, parce que précisément l'attitude religieuse ne relève que d'une démarche personnelle? Comme on dit, pour parler à la manière de certaines personnes aujourd'hui, est-ce que la gnose ou les recherches personnelles, les voies spirituelles purement individuelles, n'ont pas à se substituer à ces carcans dictatoriaux et dogmatiques que sont les religions? Ça fait partie de la réflexion sur le bien commun, et je crois sur la philosophie politique. Donc on voit là encore un retour au fond à un bien commun qui serait une pure immanence et une pure autogestion, ou vous voyez, une espèce de d'autorégulation de la communauté par elle-même. Est-ce que le bien commun n'est pas possible que par autorégulation de la communauté par elle-même, avec une éthique évolutive, une culture évolutive, vous voyez. Alors, ce qui n'est pas commode aussi, c'est que l'expérience oblige de souligner que c'est ce qu'essaye de vivre l'Occident depuis une quarantaine ou peut-être une centaine d'années, et que les résultats ne semblent pas être très bons. C'est-à-dire que l'autorégulation n'a pas l'air de s'autoréguler beaucoup toujours, au moins du côté du bien personnel. C'est-à-dire que l'autorégulation collective a l'air de fonctionner à peu près. Si vous voulez, l'Europe n'est plus en guerre depuis 60 ans, presque. Donc, si vous voyez, une certaine paix. Mais le bien personnel n'a pas l'air d'être tout à fait florissant, au moins du côté de la dimension spirituelle de l'homme. Et donc là, c'est pas commode. Je veux dire, les temps politiquement plus troublés ont semblé à certains jours donner des gens plus heureux, et des temps politiques apparemment plus calmes n'ont pas l'air de donner des gens très heureux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut précisément, à la manière de Machiavel, réintroduire un peu la guerre pour au fond réveiller ceux qui sont endormis ? Je ne soulignerai pas les conséquences qu'ont une telle réflexion sur la manière de gouverner une communauté religieuse. Parce que la foi ne changeant pas notre intelligence, c'est à la mesure de notre compréhension politique qu'on agit ou comme celui qui obéit ou comme celui qui commande dans une communauté religieuse. Voilà, donc c'est une question importante. Parce que si nous n'avons pas une philosophie politique consciente, il y en a toujours une inconsciente qui se charge de penser à notre place. Voilà. Et peut-être d'autres choses.
Apporter quelques éléments, non pas de réponse, mais ce que tu viens de dire montre qu'en fait, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a vraiment deux grands plis de la pensée politique. On vient d'entendre une apologie de la pensée dialectique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que pour aboutir en politique au totalitarisme, il y a deux voies. On peut partir de Platon et puis on peut partir de Machiavel. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en fait, c'est la même logique. Et tout ceci plaide en faveur de la vision d'Aristote, malgré les interrogations qu'elle laisse demeurer. C'est précisément lorsqu'on ne reconnaît pas à la communauté politique et à l'activité politique un bien propre, qu'on va tomber d'un côté ou de l'autre. Mais pratiquement, pour les citoyens, l'effet sera souvent le même. Pour simplifier, et vraiment à très grand trait, c'est très frappant, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé dans la pensée politique de notre Occident au tournant du Moyen-Âge. On est sorti d'une pensée, c'est ce qu'on avait essayé de voir ensemble, c'est qu'on est sorti d'une pensée avec une référence à Dieu permanente, d'une pensée politique qui ne pouvait pas se penser en dehors de la référence à Dieu, voyant en quoi le jour on a retiré cette référence, on est tombé dans la pensée libérale qui aboutit à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc je crois que la question est bien de savoir justement s'il y a un bien propre ou non à l'activité politique. Et quand même, pour nuancer un petit peu ce qu'on a entendu sur le risque, en tout cas pour l'infléchir sur le risque de tyrannie, n'est-ce pas ? C'est qu'il faut bien voir que le bien peut jouer aussi contre le tyran. C'est bien en cela qu'il est très redoutable. Si on reconnaît un bien propre à la communauté, il peut jouer, bien sûr, contre toutes les tentatives d'influence extérieure, et on l'a bien vu quand il s'est agi pour les États de s'affirmer face à la papauté, mais le bien peut jouer aussi à l'intérieur contre le tyran, puisqu'on peut invoquer finalement le bien commun à l'encontre de l'action du dirigeant. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans la même question, que je crois que c'est vraiment la question centrale. Alors, à part ça, je voudrais relever un ou deux points, et c'est vrai que Aristote laisse beaucoup de points d'interrogation. J'ai relevé quelques-uns, mais il y en a d'autres. Et parler de la nation et de l'entreprise, c'est vrai, ça montre bien. C'est que pour Aristote, enfin, l'étude qu'il fait en politique, n'est-ce pas, l'étude de la cité commence par l'étude de la famille. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît à la cité un fondement naturel. Et ce fondement naturel, précisément, il est dans la famille. Et c'est parce qu'il y a ce fondement naturel qu'il y aura un bien propre. Alors, la question qui en découle, que je n'avais pas évoquée tout à l'heure, c'est la suivante. Qu'en est-il du caractère naturel d'une communauté ? Et bon, c'est la question qu'on a posée aujourd'hui. Est-ce que finalement la nation aujourd'hui, c'est une communauté que je puis encore qualifier de naturelle ? Qu'en est-il d'une communauté, je dirais, qui n'aurait pas ce fondement ? Y en a-t-il ? Bon, je me pose la question. Je veux monter une petite entreprise avec telle personne que je connais. Nous allons réaliser une œuvre commune, produire certains biens peut-être. Quel est le fondement ? Est-ce qu'il y a un fondement naturel dans cette communauté ? Et dès lors, y aura-t-il un bien qui lui sera propre ? Ou bien, est-ce qu'il ne s'agit là que d'une communauté purement conventionnelle et qui n'a pas de bien propre, et à ce moment-là, je peux la livrer aux délices de la pensée, de l'organisation dialectique. Donc, je crois que c'est...
C'est ce que dira. Je crois qu'effectivement, la question, elle est aussi, est-ce qu'au fond, enfin, pour être toujours dans la même logique, est-ce que, au fond, Aristote n'est pas... un peu à l'avance, si vous voulez, trop frappé par la famille. Au fond, est-ce qu'il ne projette pas cette espèce de communauté naturelle qu'est la famille sur la communauté politique ? Est-ce qu'au fond, il n'a pas le courage de s'avouer que précisément la communauté politique n'a rien à voir avec la famille ? Et que la famille est au fond une espèce de groupe biologique, si vous voulez, particulier, mais que précisément la politique n'a rien à voir avec la famille, c'est-à-dire que c'est tout autre chose. Et que c'est un changement d'échelle différent, j'allais dire. La famille est comme une espèce de prolongement organique de l'individu au niveau du vivant, si vous voulez. Et qu'au fond, il faut considérer la famille d'abord comme une cellule vitale, n'ayant pas grand-chose. Alors évidemment, il y a un bien, parce qu'il y a un bien vital. Mais au fond, est-ce que la politique n'a pas à se penser radicalement à un autre niveau que la famille ? Et est-ce que le risque de la pensée d'Aristote, et même d'une pensée chrétienne contemporaine, n'est pas de projeter, vous voyez, le bien-être ou le bien personnel et le bien commun de la famille sur la communauté politique, sans avoir le courage, j'allais dire, d'affronter sa complexité ?
Nous tâcherons de répondre à cette question. Oui, alors autre question, je reviens un petit peu à Aristote. Bon, c'est un élément un aspect qu'on avait déjà relevé, vous aviez relevé, Père. C'est finalement on le voit bien à travers tout ce qui a été dit, il y a toujours ces deux dimensions finalement quand on parle du bien commun. Il y a une dimension, pour simplifier, facere, une dimension adgere. Il y a ce que l'on construit et il y a ce qui attire. Alors, c'est là qu'Aristote, c'est vrai, nous laisse dans un grand embarras, parce que il ne le précise pas. Alors, est-ce qu'on peut essayer de préciser plus que lui, en tout cas, et peut-être à la lumière de l'évolution de la pensée depuis lors, ces deux dimensions ? Et est-ce que, en particulier, dans cette dimension qui attire, puisque le bien, c'est ce qui attire, ce que tous désirent, est-ce que une question que je pose, est-ce qu'il peut s'agir d'autre chose que d'une personne ? Est-ce que dans ce qui, si le bien commun me finalise en étant une partie, une composante de mon bien personnel, est-ce que il peut lui-même avoir autre chose qu'une composante personnelle ? Alors, est-ce que finalement, je ne pourrais pas regarder, une idée hein, que je lance, est-ce que je ne pourrais pas regarder cette dimension de finalité comme étant constitué par chacun des membres de la communauté. Je ne dis pas tous ensemble, je ne dis pas la communauté comme son tout, mais chacun des membres. Et que finalement, la dimension de facere, de construction, est-ce que ce ne serait pas, à ce moment-là, ce qu'on a dit tout à l'heure, à ce moment-là, construire ce bien-vivre qui me permette d'atteindre l'autre, mais l'autre non pas pour l'autre, dans cet ordre de communauté, dans cet ordre politique fort, en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas par là qu'on pourrait arriver un peu à préciser et du coup à retrouver, j'allais dire, ce caractère un peu objectif quand même que l'on cherche au bien. Si je dis que c'est chaque personne de la communauté, on voit tout de suite de quelle façon aussi on peut s'opposer. Et ça a été fait pratiquement à toutes les tyrannies. Hein. Bon, voilà ce que je voulais ajouter. Bon, il y a un mot encore par rapport à une question que tu avais évoquée. Là, je crois qu'on peut y répondre. Tu posais la question, quelle est la place de la culture, quelle est la place du travail. Là, je crois que dans la pensée d'Aristote, indiscutablement, ce qu'on avait essayé de présenter dans les sciences, dans ce bien-vivre, il y a tout un ensemble d'éléments. Et c'est évident qu'il y a une dimension culturelle, comme il y a une dimension matérielle dans le bien commun, dans ce qu'il essaye de préciser du bien commun. Donc je crois qu'il n'y a pas d'opposition. Il est bien évident qu'un certain nombre de références culturelles, de données culturelles, notamment en matière de travail, doivent être prises en compte, en tout cas, dans cette édification, dans l'aspect justement de construction artistique de Fatshiri de la communauté en vue du bien. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de contradiction et pas de faille, me semble-t-il, dans la pensée d'Aristote sous cet angle.
Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il ne le pense pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a deux pôles, une espèce de pôle éthique, bon, parce qu'il est marqué par le problème de la contemplation, et puis il y a un pôle concret, qui est l'organisation matérielle. Et au fond, la question est de savoir quel est le lien entre les deux. Parce que si c'est de nature autre, il y en a un qui est plutôt selon la fin, l'autre qui est plutôt selon le conditionnement. Même chose, est-ce que leur unité est pensable? Ou est-ce que alors c'est très vrai, là je vais dire le critique ira jusqu'au bout, c'est en se demandant est-ce qu'au fond la politique n'est pas intrinsèquement dialectique? C'est-à-dire est-ce que ça ne fait pas partie proprement de la personne humaine que de vivre une tension tragique permanente entre sa finalité et son conditionnement? Et que de toute façon, il y a une contradiction interne et que c'est, il ne faut pas chercher à l'éviter. Et rêver que le conditionnement soit de lui-même finalisé, c'est absolument impossible. Déjà au niveau de l'individu, puisqu'Aristote est le premier à constater dans la philosophie politique que malheureusement la majorité des gens vivent à un niveau purement passionnel et n'ont pas l'air de s'élever que très rarement à un niveau strictement humain. Donc au fond, toujours la même chose. Est-ce que cette espèce d'homme idéal qu'a l'air de rêver Aristote, est-ce qu'il n'a pas à avoir le courage de la lucidité, de s'apercevoir qu'il vit plus comme un animal, enfin, ou comme un homme déchu, que comme un homme tout court? Et qu'au fond, cette espèce de tension va inévitablement se transformer en dialectique. Parce qu'il n'arrivera pas à ce que l'éthique, ou cette espèce de dimension plus selon la finalité, assume de l'intérieur, le problème du conditionnement. Donc on a l'impression que chez Aristote, on ne voit pas très bien, à première lecture au moins, où est le lieu où il pense le lien entre le conditionnement et la finalité, puisque la politique est le lieu où au fond il y a à penser ce lien d'une manière communautaire. Donc est-ce qu'au fond la politique d'Aristote est allée jusqu'au bout, ou est-ce qu'il est resté, si vous voulez, dans une voie de recherche avec deux espèces de choses qu'il essaye d'unir, mais qu'au fond, il espère unir, mais dont on ne verrait pas très bien à première lecture, où est-ce qu'il les unit?
Est-ce qu'on peut penser que Aristote n'ose pas conclure par rapport à la dialectique du maître et de l'esclave? Il est, en même temps, il essaie de le justifier, et en même temps, il est un peu pas par rapport à son temps, parce que c'était dans les mœurs. Est-ce qu'en même temps, il donne tous les principes pour conclure à ce lien entre...
Le problème, c'est ça. Est-ce que la conclusion est faisable? Parce que c'est bien gentil de donner deux éléments. Mais s'ils sont intrinsèquement inconciliables, ça ne sert à rien de prétendre qu'ils peuvent l'être. C'est très joli de mettre la contemplation d'un côté et l'organisation du travail de l'autre. Mais en quoi est-ce que l'organisation économique mondiale peut avoir un lien quelconque avec la contemplation?
Ça, c'est Platon. Je pensais platonicien.
C'est ça, mais la question est de savoir, c'est vrai. Est-ce qu'au fond, Aristote n'est pas là-dessus, vous voyez? Est-ce qu'il est vraiment affranchi de Platon? Ou est-ce qu'au fond, il est resté quand même marqué par le rêve de son maître, même s'il essaye de le rendre réaliste? Mais est-ce qu'au fond, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il commencerait pas par dire, au fond, c'est la politique est intrinsèquement et essentiellement tragique, c'est-à-dire qu'au fond, on tend vers quelque chose qu'on n'atteindra jamais? C'est pour ça, enfin, ça fait partie d'ailleurs de ces raisonnements de certains bons théologiens pour justifier l'impossibilité de vivre une vie religieuse. Parce que la vie religieuse et la vie monastique, c'est le dernier des mythes du catholique qui n'a pas le courage de s'avouer que la politique est intrinsèquement tragique et que la grâce n'enlève pas cette dimension tragique et que donc ça n'est pas vivable.
Oui, ben voilà, on regarde la pensée d'Aristote, je crois qu'on peut répondre quand même. Précisément, si on cherche à être... Le niveau chrétien est le niveau le plus pratique. Parce que dans le Christ, je crois que j'ai précisément le bien que je cherche. Et je n'arrive pas à expliciter au niveau strictement humain.
Alors c'est le bien que je crois avoir. Mais est-ce qu'au fond, au niveau concret, même chose, le groupe, le nombre, Et j'allais dire, les défauts additionnés des individus ne finira pas toujours par l'emporter. Donc au fond, est-ce qu'il ne faut pas renoncer? C'est ce que dit presque Machiavel, qui a une espèce d'admiration, de fascination et en même temps de crainte inimaginable de personnages comme Saint-Dominique et Saint-François, qui se demandent si au fond, est-ce qu'ils sont ceux qui viennent proposer une solution à l'insoluble, ou est-ce qu'au fond, ils sont les utopistes les plus dangereux parce qu'ils proposent précisément quelque chose qui n'est pas vivable. Ça, c'est ce que Machiavel dit dans les Décades. Il est très, très... Il n'est pas à l'aise du tout avec le phénomène monastique. Surtout les ordres mendiants. Qui ont la prétention, précisément, d'être à la fois... d'assumer la complexité du monde et en même temps d'unir encore plus que la vie monastique, j'allais dire bénédictine, le conditionnement du monde, y compris le monde séculier, pour une part, avec la finalité contemplative. Enfin, c'est pour montrer que la question, elle a des répercussions théologiques immédiates sur, au fond, la possibilité dans la grâce de vivre de la vie religieuse. Je crois qu'il faut bien le voir en face, hein, que certaines visions, certains religieux prônent une vie religieuse qui est plus sur le modèle précisément d'une vie qui ne prétend pas vivre de la communion fraternelle, d'une vie plus efficace, d'une vie religieuse plus efficace.
Il faut que chacun d'entre vous réfléchissiez pour que cet après-midi, vous puissiez poser vos questions.